Bonjour, bienvenue sur le podcast de Bonjour Malo. Malo, c'est l'application qui prend soin de votre enfant et de vous. Dans cette première saison dédiée aux familles arc-en-ciel, nous recueillerons le témoignage de parents qui ont dû et qui doivent toujours se battre pour faire reconnaître leur famille. Tout de suite, vous entendrez le témoignage de Mam. Si aujourd'hui, Mam est l'heureuse maman solo d'une petite Imani, il lui aura fallu déconstruire ses projections qu'elle s'était faites à deux. Voyant le temps passer et son désir d'enfant intact, Mam n'a pas attendu la venue du fameux prince charmant pour s'engager dans l'incroyable aventure de la maternité. Accompagnée par une gynécologue engagée, elle s'est ainsi lancée dans un parcours PMA en solo. Elle nous partage aujourd'hui son histoire avec, vous pourrez l'entendre, sa bonne humeur communicative. Bonne écoute!
Bonjour Mam.
Bonjour Kim.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je suis vraiment, vraiment ravie de t'accueillir et de partager ce moment avec toi.
Mais merci à toi de m'avoir invité pour que je puisse raconter un peu mon histoire. Ça me fait très plaisir.
J'ai hâte. Alors, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter et nous présenter ta famille ?
Oui, alors je m'appelle Mam, j'ai 39 ans, j'habite en région lyonnaise. Je suis animatrice radio. Et maman d'une petite fille de 11 mois et demi, qui s'appelle Imani.
D'accord. À quel moment est né ton désir d'enfant ?
Je crois que du plus loin que je me rappelle, j'ai toujours voulu être maman. Parce que moi, je suis issue d'une famille de 4 enfants, j'ai 3 frères. J'attendais tout simplement que la vie se fasse, rencontrer la bonne personne et puis faire mon foyer.
D'accord. Je vois qu'on a une petite invitée.
Oui, Imani est à côté, elle adore les interviews, c'est une future star.
Bonjour Imani.
Je dis bonjour ma puce. Bon, elle fait coucou, on la voit pas, mais le cœur y est.
Alors, comment tu t'es décidée finalement à faire un bébé en solo ?
Ça s'est décidé par rapport aux différents aléas de la vie. Il se trouve que j'ai eu des relations, j'ai été en couple plusieurs années avec un garçon avec qui on voulait avoir un enfant. On a essayé, ça n'a pas fonctionné, puis notre relation finalement s'est terminée. Et puis après, je n'ai fait que des rencontres malheureuses, on va dire. En tout cas, pas de personne prête à s'engager pour fonder une famille. Et voyant l'âge avancer, je me suis dit... Moi, j'envisageais pas ma vie sans enfant, donc je me suis dit, écoute, on va peut-être faire les choses dans un ordre différent, un bébé et peut-être après une rencontre, une famille recomposée. Voilà, pour moi, il n'y avait pas d'ordre à proprement parler. Et c'est comme ça qu'en fait, ça s'est décidé parce que j'avais toujours pas rencontré la bonne personne et je voulais pas risquer de, on va dire, louper le coche, qu'on me dise, vous êtes trop vieille pour avoir un enfant et que ça devienne difficile.
D'accord. Alors, quand tu as pris cette décision, comment tu t'es renseignée ? Tu as fait appel à quelles ressources ?
J'ai regardé sur Internet. On va dire que c'est là où on trouve le plus d'informations. Alors, bien évidemment, il faut savoir les trier et prendre du recul sur certaines. Mm-hmm. Mais sur Internet, j'ai rencontré des futures mamans. J'ai vu des forums, des groupes comme ça de mamans solo. Et ça m'a confortée dans l'idée, même si ma décision était déjà prise depuis quelques temps déjà.
D'accord. Et du coup, ça t'a aiguillé à choisir quel parcours tu allais faire parce qu'il y a autant d'options possibles, autant de pays qui te le permettent. Comment t'en es venue à décider de ton parcours ?
En fait, c'est justement en discutant sur ces différents groupes que je me suis rendu compte que beaucoup de femmes partaient en Espagne, parce que l'Espagne, c'est vrai que c'est à côté. Tu montes dans l'avion, tu arrives à partir, on va dire, pour pas très cher, parce qu'il faut savoir que c'est aussi un budget de faire des allers-retours dans ces pays étrangers. En me renseignant, je me suis rendu compte qu'en Espagne, on ne te laissait pas le choix du donneur. Et moi, c'est ce qui m'a posé problème dans le sens où je me suis dit, j'ai pas attendu 38 ans pour faire un bébé toute seule pour qu'on m'impose le donneur. Parce qu'en Espagne, en fait, le donneur, on va te choisir un donneur qui te ressemble, en guillemets, on va dire. Donc, moi qui suis d'origine africaine, ça aurait été un donneur de, on va dire, à la peau noire, quoi. Ce qui en soi ne me pose pas de problème, bien évidemment, mais je voulais pouvoir choisir, me dire, bah, si moi j'ai envie d'avoir un donneur aux yeux bleus ou un donneur d'origine asiatique ou un donneur à la peau noire, eh ben, j'ai envie d'avoir le choix. L'Espagne ne me laissait pas ce choix-là, donc moi je me suis dirigée vers le Danemark, où là j'avais la possibilité de choisir.
Donc du coup, tu es entrée en contact avec une clinique au Danemark, c'est ça ?
C'est ça. Je suis entrée en contact avec deux cliniques même au Danemark.
D'accord.
Une où j'ai eu un gros coup de cœur, donc ils m'ont fait remplir des documents pour avoir des informations sur moi, sur mon état de santé, mon bilan. Et c'est comme ça que j'ai su qu'il fallait faire donc tous ces bilans hormonaux, parce que très souvent on me demande quelle est la première chose à faire. Ben moi, je pousse souvent les futures mamans à voir leur gynécologue et à faire des bilans de fertilité. Donc c'est ce que j'ai fait.
Comment se déroule ce bilan, du coup ?
Tu as beaucoup de prises de sang, d'échographie aussi. On va dire, c'est indolore, hein, mais c'est beaucoup de prises de sang, des échographies à certains moments de ton cycle pour voir si les ovulations se font correctement et si tout est, on va dire, en place pour pouvoir accueillir un enfant.
D'accord. Donc là, c'est la clinique que tu es allée voir. Tu as donné une liste, si on peut dire, d'examens à faire avant, c'est ça, d'entrer dans le parcours. D'accord.
C'est ça. Je suis pas allée les voir, je les ai eus en contact par mail d'abord.
D'accord. Oui, parce que c'est pas tout prêt.
Oui.
D'accord. Et une fois donc ces examens faits, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la suite?
La suite, il se trouve que sur les différents forums, moi, j'ai entendu parler de Cryos, qui est une banque de sperme. C'est la plus grande, je crois, banque de sperme en Europe, qui fournit justement toutes ces cliniques, où j'ai dû le voir peut-être sur le site des cliniques qui indiquaient qu'ils travaillaient ensemble. Je les ai donc contactés. Ils m'ont donné, j'ai pu créer un compte sur leur site internet pour avoir accès en fait aux différentes fiches des donneurs. Donc en fait, moi j'ai commencé à me renseigner juste comme ça pour voir un peu à quoi ça pouvait ressembler. Je leur ai expliqué que j'avais fait mes bilans sanguins et que je souhaitais venir au Danemark, parce qu'ils sont au Danemark aussi, venir au Danemark pour une insémination, puisque moi c'est ce qui m'était préconisé en fait.
D'accord.
Et quand je les ai eus au téléphone, ils m'ont indiqué que certains gynécologues en France acceptent de pratiquer les inséminations. Alors c'était avant que la loi passe, mais ça je savais pas encore que la France l'interdisait, mais que certains gynécologues voilà acceptaient de faire les inséminations dans leur cabinet. Bien évidemment, tout est tracé, tout est sécurisé, tout est contrôlé. Et donc, j'ai pu, par chance, apprendre qu'il y avait un gynécologue qui était non loin de chez moi et que j'aurais pu faire mon insémination en France plutôt que de partir à l'étranger.
D'accord, oui. Donc, c'est beaucoup plus facile, du coup, j'imagine, en termes de process.
Oui. Mais c'est surtout moins cher parce que tu n'as pas à déplacer pour aller à l'étranger. C'est plus pratique dans le sens où une insémination, ça se saurait. Hein, si tu pouvais la faire le lendemain matin comme ça au réveil, non, il faut que ça tombe aussi pile poil dans ton cycle. Donc, pour toutes celles qui partent à l'étranger, il faut calculer pour que ça tombe aussi au moment de l'ovulation. Il faut pouvoir, j'ai envie de dire, se payer le luxe de pouvoir partir une semaine, peut-être une semaine, ouais, 3-4 jours à l'étranger pour pouvoir faire cette insémination. Donc, c'est pas forcément donné à tout le monde par rapport au métier qu'on fait.
Mmh. Oui, parce qu'au-delà du voyage, il faut payer la clinique, l'insémination, oui. Il faut payer les paillettes.
C'est ça. Et ça, donc les paillettes, c'est l'échantillon de sperme du donneur. Donc tout ça, ça a un coût. Plus les allers-retours, plus le logement si tu pars sur place et que tu n'es pas logé gracieusement. Donc oui, tout ça, ça a un coût. Ouais.
Et donc du coup, avant que cette loi passe, et ça présentait quand même un risque pour les gynécologues d'accepter cette démarche. Donc c'est un gynécologue ou une, je ne sais pas, qui devait être très engagé du coup.
Ouais. Ce sont des gynécologues qui sont, on va dire PMA friendly et qui font ça pour aider les femmes à devenir mères et surtout pour dire, comme moi je le dis, c'est pas normal avec le système de santé qu'on a ici. Moi, j'estime qu'on a un des meilleurs systèmes de santé au monde ici en France et que la France envoie ses citoyennes à l'étranger pour qu'elle puisse avoir recours à une insémination, enfin à une PMA. Moi, je trouve ça scandaleux. Bon, à mon petit niveau, ça change pas grand-chose que je crie au scandale, mais je le dis à chaque fois qu'on me fait une petite interview. Peut-être qu'au bout d'un moment, ça finira par s'entendre, parce que la loi est passée, certes, mais il y a des délais d'attente maintenant qui sont hyper longs. Donc, c'est pas gagné encore pour toutes les femmes qui veulent faire une PMA.
On a un vrai problème de dons en France. Oui. Que ce soit d'ovocytes ou de paillettes. Oui. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai besoin de sensibilisation, je pense, au niveau national pour permettre de raccourcir ces délais.
Oui, mais ça va être de pire en pire parce que en France, ils veulent que les donneurs soient ouverts. Donc ce qu'on appelle ouvert, c'est le donneur non anonyme qui accepte que l'enfant puisse le recontacter à ses 18 ans. Sauf qu'en obligeant les hommes à être des donneurs ouverts, ils auront encore moins de donneurs parce que c'est pareil. Moi, je trouve ça beau, un homme qui fait ce geste-là pour permettre à une femme, à des femmes ou même à des couples qui ont des problèmes de fertilité d'avoir un enfant, mais de lui imposer d'être, comment dire, d'être contacté plus tard, je trouve que c'est encore une... J'arrive pas à trouver le terme, mais ouais, c'est un frein, et puis je trouve ça dommage parce que les hommes se disent moi je veux bien aider, mais j'ai pas forcément envie, même si l'enfant à 18 ans n'aura pas de lien avec cette personne, il pourra juste la contacter. T'as des hommes qui vont pas avoir envie d'être contactés dans 20 ans, quoi, et je le comprends tout à fait. Moi, j'ai choisi un donneur anonyme. Parce que je me suis dit, justement, dans 18 ans, il va se passer tellement de choses. J'ai pas envie que ma fille, elle idéalise quelqu'un qui n'est ni son père, ni un membre de sa famille. Donc voilà. Et c'est ce qui va freiner en France. Et je pense que ça va être de pire en pire. Mais voilà, peut-être qu'ils s'en rendront compte au fur et à mesure du temps.
Et toi, du coup, en passant par Krios, quelles ont été tes champs de possibilités pour choisir le donneur?
J'ai pu choisir. Alors, tu peux choisir un donneur anonyme ou non. Voilà, ça c'est un choix. Et ils ont un catalogue. C'est vrai que ça fait un peu site de rencontre ou voilà. Mais ils ont effectivement un catalogue avec les différents donneurs. Et tu peux avoir accès à certaines informations. Certains à tes souhaits, ma puce. Certains mettent leurs photos. Bébé, d'autres mettent leur photo adulte. Alors ça a un coût parce qu'il faut quand même, on va pas se mentir, hein, c'est un business, hein. Si tu veux voir la photo adulte, tu rajoutes un petit billet et puis tu peux avoir accès aux photos adultes. Quand t'es dans ces parcours là je pense qu'ils le savent, les femmes, elles sont prêtes à tout. Moi, je voulais aller au bout de la démarche, donc j'ai payé 250 euros, je crois, pour avoir accès aux photos adultes, sachant que tout le monde ne les met pas. Donc sur 500 donneurs, t'en as peut-être 20 qui mettent leur photo adulte. Ça fait quand même un peu cher, les 20 photos, mais bon, tu te dis, je veux pas avoir de regrets, donc je vais au bout. Moi, j'ai finalement choisi un donneur où il n'y avait pas de photo adulte, il n'y avait qu'une photo de petit. Tu peux entrer des critères aussi physiques, si tu veux qu'il soit blond, brun, la couleur des yeux, la taille. Voilà. Moi, j'ai pu faire ça. Et comme j'ai voulu aller dans le métissage, parce que j'estime que le métissage, c'est quand même aussi une belle ouverture d'esprit, en mettant un donneur blond aux yeux bleus, je te laisse imaginer qu'au Danemark, il n'y a que ça, donc ça ne m'a pas facilité la tâche. Mais du coup, j'ai fini par trouver le bon.
D'accord. Et donc, une fois que tu as choisi le donneur, comment ça se passe avec le ou la gynécologue qui te suit?
En fait, c'est Krios qui envoie. Toi, tu passes ta commande et c'est envoyé directement chez un professionnel de santé. Il faut savoir qu'avant, il y avait possibilité d'envoyer les paillettes à domicile. Il y a quelques années, il y a eu des dérives, donc ils ont arrêté ça, et c'est envoyé uniquement chez des professionnels de santé qui sont inscrits chez Krios et qui, je pense, ont des contrôles et des choses comme ça pour vérifier que ce sont bien des vrais praticiens. Et c'est le gynécologue qui reçoit directement les paillettes au cabinet.
D'accord. Donc, une fois reçu, vient le moment de l'insémination.
C'est ça.
Quels examens préalables tu dois faire juste avant l'insémination?
Juste avant, moi, j'étais sur des tests d'ovulation parce qu'on veut être sûr que tu sois inséminé au moment du pic de l'ovulation. Sinon, c'est perdu. Enfin, ça ne fonctionnera pas. Donc, test d'ovulation pour vérifier que l'ovulation arrive. Et une fois qu'on est dans les 24-48 heures, moi, j'ai pu faire mon insémination. C'était un vendredi. Donc, le jeudi, ovulation. et le vendredi, insémination. Et puis, bah, voilà, ça a marché du premier coup. J'ai eu de la chance.
Super. Comment alors tu as découvert ta grossesse? Tu avais des symptômes?
Non, aucun.
Ton corps.
Aucun symptôme jusqu'à la veille du test de grossesse. Où la veille j'étais un peu brassée, un peu mal au ventre, donc je me suis dit bon, ça c'est pas bon signe en fait. Je pensais que c'était mes règles en fait qui arrivaient. Et puis le lendemain matin au réveil, parce que je partais donc sur mon émission de radio à 5h30 du matin, je me suis dit bon, fais un test, s'il est négatif c'est pas grave, de toute façon tu pars au boulot, donc au moins t'auras tes collègues pour te changer les idées. Mais au fond de moi, je savais que de toute façon, moi, ça marcherait du premier coup. Je m'étais conditionnée pour que tout fonctionne du premier coup. Dans ma tête, en fait, je m'étais dit, je m'étais laissé deux tentatives avant de passer peut-être à une FIV, qui est un protocole plus lourd. Mais je savais que ça marcherait du premier coup parce que j'ai voulu rester positive tout le long du parcours. Alors, c'est facile à dire, hein, je ne dis pas à toutes celles qui vont nous écouter, oui, restez positive, ça va marcher. Non, moi, je pense que les étoiles étaient bien alignées, mais c'est surtout que je n'ai jamais voulu être défaitiste en me disant peut-être que ça ne marchera pas. Donc voilà, et ça a marché du premier coup. Donc, j'ai fait mon test de grossesse le matin, il était positif. Une prise de sang dans la foulée qui a confirmé. Et puis, ben, 9 mois après, ma fille était là.
Alors, qu'est-ce que tu as appelé en premier pour partager ton excitation?
Personne.
Personne.
Non,
tu l'as
personne.
Gardé pour toi.
Je l'ai gardé pour moi parce que donc j'ai fait mon test de grossesse un mardi, je crois, je sais plus. Le mercredi, j'ai fait la prise de sang. Elle était positive. J'ai dû passer donc toute ma journée et j'ai appris en fait que j'étais enceinte. J'étais assise dans l'appartement de ma meilleure amie qui elle n'était pas là. Il faut savoir que j'ai les clés de toutes mes copines, donc j'étais chez elle en fait. Je sais plus. Je crois que j'étais allée me reposer après mon émission matinale chez elle et j'ai eu les résultats de la prise de sang. Elle m'a rejoint après, forcément. Elle a fini par rentrer chez elle et j'ai dû garder le secret pour moi parce que je voulais l'annoncer quand même à ma maman en premier. Et j'ai dû attendre le soir. Le soir, j'avais un spectacle, donc j'ai attendu que ça passe. Et en arrivant très tard le soir, j'ai annoncé à ma maman que j'étais enceinte. Donc c'est elle qui l'a su en premier. Et puis ensuite, j'ai annoncé à mes frères. Voilà, les vrais amis très proches l'ont su dans la foulée, enfin dans le mois qui suivait. Et puis après, j'ai attendu les 3 mois pour faire l'annonce officielle.
D'accord. Et comment s'est passée la grossesse du coup?
Bah parfaite. J'ai appris, j'étais enceinte 3 jours après, on était confinés, hein, premier confinement du mois de mars là.
Ah oui.
De l'année dernière. Donc autant te dire que j'ai pas fait grand chose. C'était canapé, Netflix. Donc, j'ai pu me reposer pendant toute ma grossesse. J'ai pas eu de nausées, j'ai pas été malade, rien du tout. Ensuite, moi, mon patron a décidé de pas nous faire revenir à la radio à cause du Covid. Donc, du coup, je suis restée en chômage partiel. Et comme ce sont des contrats saisonniers, à la fin de mon CDD, bah, je leur ai annoncé que j'étais enceinte, donc je ne reviendrai pas à la rentrée de septembre. Voilà. Et puis, novembre, j'ai accouché. Donc, ça s'est relativement vite et bien passé.
D'accord. L'accouchement aussi, c'est bien passé?
Ouais, l'accouchement aussi. Je suis rentrée à la clinique à 5h. À 9h, elle était là.
Ah, super. Et t'étais accompagnée ou seulement par les sages-femmes, du coup?
Non, je me suis fait accompagner d'une doula.
D'accord.
On en entend beaucoup parler maintenant, oui. Des doulas, donc ces accompagnantes à la maternité, qui étaient là parce qu'en fait, ma maman aurait pu, mais je voulais pas la mettre dans un état de stress si jamais l'accouchement se passait pas bien. Donc du coup, c'est ma doula, Anne, qui m'a accompagnée pendant ma grossesse aussi, qui m'a donné des conseils, qui est venue à ma rencontre. On a parlé de plein de choses, de l'allaitement, de l'accouchement, de toutes ces choses-là dont on a envie de parler avec quelqu'un. Et ensuite, le jour de l'accouchement, elle était avec moi.
Et comment alors l'émotion ressentie quand tu as rencontré ta fille?
Bah, j'ai pleuré. Bah, moi, je pleure pour un oui ou pour un non. Donc, moi, c'est réglé. Mais j'ai pleuré. Alors, bizarrement, quand j'ai appris que j'étais enceinte, je n'ai pas pleuré. Quand j'ai appris que c'était une fille, je n'ai pas pleuré. Le jour de l'accouchement, par contre, ouais, j'ai pleuré. Et puis, bah, voilà, j'étais trop émue, trop contente. Et puis, c'est ce moment où tu dis qu'à partir de maintenant, tout ce que tu vas faire, c'est pour ton enfant. Tu n'es plus toute seule.
Et comment sont passés les premiers jours du coup avec Imani?
Ça a été, je suis restée 4 ou 5 jours à la maternité, donc j'étais hyper chouchoutée, choyée, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de mamans à ce moment-là, donc c'était vraiment top. J'ai eu une équipe à la maternité qui a été géniale, et puis retour à la maison, j'ai la chance d'avoir ma maman qui habite la maison d'à côté, donc depuis qu'Imani est née, j'ai quasiment pas touché une casserole, j'ai une maman au top qui prépare de bons petits plats, donc je peux vraiment profiter de ma fille à fond, et puis voilà, ça fait déjà bientôt un an qu'elle est née, j'ai l'impression que c'était hier.
Ah. Ça passe vite.
Ouais, ça passe trop, trop vite.
Et est-ce que tu lui parles à Imani du parcours ou est-ce que c'est encore un peu tôt?
Non, j'en parle pas. Je lui ai écrit. Enfin, je continue de lui écrire régulièrement. Donc, je voulais faire un petit livre en fait qu'elle lira quand elle aura envie. Enfin, plus grande parce que c'est vraiment. C'est pas un livre d'histoire comme les petits livres qu'elle peut avoir, mais je lui raconte un peu toute cette histoire, tout ce parcours. C'est vrai que quand tu discutes avec des mamans qui ont fait le même parcours, il y en a qui en parlent depuis que le bébé est dans le ventre, il y en a qui en parlent depuis tout petit. Moi, je vais lui en parler. Je sais pas si j'attends qu'elle pose des questions. Parce que déjà, elle va voir autour d'elle que, notamment mon frère a un bébé qui a 9 mois de plus qu'Imani, avec qui ils s'entendent très très bien, et elle va bien se rendre compte que son cousin a un papa. Donc, je pense qu'elle finira par poser la question. Et puis après, l'entrée à l'école aussi, les questions se poseront. Donc, moi, je vais être transparente, tout lui expliquer. Mais je pense que là, maintenant, si je lui raconte, elle s'en fout un peu, quoi. Elle est trop petite.
Et du coup, de retour à la maison, tu as eu le soutien de ta maman.
Ouais.
Mais alors, comment tu as géré ces premiers mois? Et en plus, je crois que tu as une activité professionnelle que tu as lancée avec ta maman à cette même période. Comment tu as réussi à gérer tout ça?
Écoute, ce qui est fou, c'est que j'ai l'impression que la maternité nous fait perdre un peu la mémoire. Il y a plein de choses dont je me rappelle plus. J'ai pas l'impression que ça a été difficile de tout mener de front, parce que comme je te dis, j'avais la chance d'avoir ma maman qui s'occupait de tout. Donc voilà, moi Imani, je l'ai allaitée encore. Donc voilà, elle était allaitée quand il fallait, changée quand il fallait. Elle faisait ses siestes. Alors pendant 8 mois, elle a fait ses siestes sur moi. Endormie sur maman, j'avais l'ordinateur d'un côté et ma fille dans l'autre bras. Donc en fait, j'arrivais à gérer comme ça avec une main. Voilà. Puis comme tout fonctionne beaucoup via les réseaux sociaux, voilà, j'étais accrochée. Je me suis toujours à mon téléphone.
Et alors, comment ça se passe aujourd'hui pour toi?
Et ben aujourd'hui, Imani est toujours avec moi. J'ai fait une demande en crèche pour janvier uniquement 2 jours par semaine. Hein, on va se calmer, on va pas trop en demander. C'est vrai que il y a plein de mamans qui vont me rejoindre, d'autres qui me disent ah non, moi j'aurais pas pu. Au bout de 2 mois, c'était crèche, il fallait que je reprenne une activité. Moi, je vais avoir 40 ans l'année prochaine. Je sais pas s'il y aura un petit frère ou une petite sœur. En tout cas, aujourd'hui, je veux profiter à fond d'Imani. Tout en lui montrant qu'on n'est pas que 2 ou 3 sur Terre, hein, qu'il faut qu'elle rencontre du monde et qu'elle voit d'autres personnes. Mais j'avais envie, parce que j'ai la possibilité de la garder le maximum avec moi, mm-hmm. Et de profiter d'elle, parce que, comme on disait, ça passe tellement vite que voilà, là, elle commence à marcher, et alors que j'ai encore l'impression qu'elle était bébé, tout petit bébé hier. Donc aujourd'hui, je la garde encore, puisque j'ai la chance avec cette activité de pouvoir travailler de la maison. Donc voilà, j'en profite. Comme elle est de plus en plus autonome, elle fait sa vie, et puis moi je travaille à côté, quoi.
C'est super, tu peux profiter pleinement de cette première année qui est tellement importante.
C'est ça. J'aurais été trop frustrée de louper ses premiers mots, ses premiers pas, son premier 4 pattes ou des choses comme ça. J'aurais été trop frustrée. Donc du coup, je suis contente d'avoir cette chance-là, même en étant maman solo, de me dire je peux profiter de ma fille, même s'il n'y a pas entre guillemets de relève avec un papa ou une deuxième maman. Je peux profiter à fond, et ça c'est top.
Super. Mamie. Est-ce que, du coup, si tu envisages un deuxième enfant, comme tu as pu me le dire juste avant, est-ce que c'est quelque chose que tu as pu anticiper avec Krios?
Alors, tu peux l'anticiper, oui. Tu peux réserver des paillettes du même donneur. Mm-hmm. Moi, c'est de toute façon ce que j'envisageais de faire s'il y avait petit frère ou petite sœur. J'ai pas encore réservé, donc je suis dans une réflexion. Oui, Manu n'a qu'un an, hein, mais je suis dans une réflexion de bon, comment ça va se passer. On va voir. Peut-être qu'à son entrée à l'école, elle sera plus grande et j'aurai du coup plus envie, en guillemets, de me relancer dans une grossesse. Mais en tout cas, tu as la possibilité, oui, de réserver le même donneur pour que, en tout cas, le patrimoine génétique soit le même entre la fratrie.
D'accord.
Voilà, mais je l'ai pas encore fait. Je regarde toujours le stock de mon donneur pour voir si ça descend, s'il y en a encore, mais je l'ai pas encore fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, je me dis. Je suis pas vieille, hein, mais je veux profiter pleinement. Je vois la chance que j'ai. Moi, mon parcours a été relativement facile, contrairement à beaucoup autour de moi, notamment même des très très bonnes amies qui en sont à leur 5e, 6e, 7e, 10e essai et ça marche toujours pas. Je mesure ma chance et je me dis j'ai vraiment envie de profiter que Imani découvre le monde, elle a un tonton en Australie, pouvoir partir et je me dis est-ce que dans 2-3 ans quand j'aurai 40 ans plus j'aurai envie de me relancer dans ça alors que Imani sera plus grande, repartir avec un bébé, je sais pas, on verra ce que me réserve l'avenir. Mais en tout cas, même s'il y a une rencontre sentimentale, on va dire, ouais, qui se fait, je suis partie du principe que je veux qu'Imani, s'il y a un frère ou une sœur, ait le même donneur. Donc ça, c'est quelque chose, par contre, qui est hyper important pour moi.
D'accord. Et si jamais tu refaisais un parcours PMA en France avec ta gynécologue,
oui.
Est-ce que la loi, la PMA pour toutes, aurait un changement sur ce parcours?
Bah, c'est une bonne question. Je suis pas certaine parce que la gynéco, c'est une gynécologue qui me suivait, est toujours en activité. Peut-être qu'elle va continuer à proposer ses services. Donc du coup, je repasserai directement par le même parcours avec Cryos, l'envoi chez la gynéco et l'insémination en cabinet.
D'accord.
Je pense qu'il y aura pas de gros changements en fait.
D'accord. Oui, mais parce que si de toute façon le problème qui persiste, c'est les donneurs. Donc
oui.
Voilà, passer par Cryos, ça enlève ce frein.
Cryos avec le même donneur, ouais. Donc il y aurait pas de souci. Le cas échéant, cette fois-ci, je partirai au Danemark puisque il y a la clinique sur place et Cryos sur place. Donc bon, ça serait, je pense, pas un problème.
D'accord. Est-ce que si des futures mamans solo nous écoutent? Est-ce qu'il y a un ou plusieurs conseils que tu aimerais leur transmettre?
Oui, alors faites-vous confiance, puis n'écoutez pas les autres. Moi, c'est ce que je me suis toujours dit. Il y aura toujours des bons donneurs de leçons qui vont dire que non, il faut qu'il y ait un papa, il faut qu'il y ait une maman. Non, il faut juste qu'il y ait de l'amour, hein. Papa, maman, deux papas, deux mamans, peu importe. L'essentiel, c'est que vous soyez clair avec votre décision, parce qu'une fois que l'enfant est là, on peut pas faire machine arrière. Et il y a pas de modèle. Pour moi, il y a pas de schéma parfait. Moi, j'estime que mon schéma, il est parfait. D'autres vont me dire, s'il y a pas de papa, c'est compliqué. On a des exemples où il y a des papas et c'est compliqué aussi. Donc voilà, moi, je veux juste dire, faites-vous confiance et entourez-vous aussi. C'est important d'être entouré de bonnes personnes qui vous apportent des ondes positives.
Comme on dit, il faut un village pour élever un enfant.
Exactement.
Mais une famille commence à deux.
Exactement ça.
Je te remercie beaucoup, Mam, pour ce moment ensemble. J'étais ravie de pouvoir t'écouter et j'espère sincèrement que ton témoignage aujourd'hui pourra éclairer certaines mamans qui se posent des questions futures.
Avec plaisir, qu'elles n'hésitent pas à me contacter. Je suis très présente sur Instagram et je réponds à tous les messages qu'on m'envoie, donc avec bienveillance et avec les conseils que je peux divulguer. Hein. J'ai pas toutes les réponses du moins, mais avec mon parcours, j'essaye d'en donner un maximum.
Oui, alors si vous voulez retrouver Mam sur Instagram, c'est
Ma Maman Solo. Ouais.
Qui pourra donc répondre à vos questions si vous en avez, et puis pourrez découvrir aussi sa vie, sa petite fille adorable. Et voilà.
Avec plaisir, avec grand plaisir.
Je te remercie sincèrement encore.
Merci à toi.
Je vous souhaite une belle journée à toutes les deux.
Merci.
Et j'espère à bientôt.
Oui, je l'espère aussi, avec grand plaisir.
Au revoir, Mam. Merci pour
tout. Bonne journée, au revoir.
Au revoir.